Bon, bonjour à tous. Donc, on va recommencer les cours aujourd'hui. Et cette fois-ci, donc, c'est une série plus limitée que l'année dernière. Il n'y a que 6 cours, 2 en mars et 4 en juin. Les cours de juin auront lieu, je pense que c'est plutôt le jeudi matin et pas le lundi, mais en tout cas, vous pouvez regarder sur l'affiche. Alors, cette année, c'était mon intention de repartir vers quelque chose qui m'a intéressé pas mal depuis un certain temps, qui est à la fois, bien sûr, l'histoire connectée, mais aussi comment conjuguer l'histoire connectée avec l'étude des sociétés de cours. Et aujourd'hui, je vais donc démarrer en prenant une série d'exemples, des exemples au départ pouvaient être assez séparés, mais on verra en fait qu'on peut finalement connecter ces exemples apparemment séparés. Et je vais commencer donc en vous montrant un objet assez curieux. Alors, au début du XVIIIe siècle, Auguste II, électeur de Saxe et plus brièvement roi de Pologne, acheta au bijoutier de sa cour Johannes Melchior Dinglinger, une forte curieuse création de son atelier. Je vais peut-être baisser un peu les lumières si c'était possible. Non? Non. Oui, ça va peut-être un peu mieux comme ça. Alors, cette pièce massive, achetée en 1708, incrustée de joyaux et d'émail, et qui avait nécessité 7 ou 8 ans de travail, était l'œuvre donc de Dinglinger, que vous voyez ici, aidée de ses deux frères et de plusieurs apprentis, et elle s'intitulait Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aurangzeb, la cour de Delhi au jour anniversaire du grand mogol Aurangzeb. Et on estime qu'elle a coûté entre 55 et 60 000 Reichstalern, soit l'équivalent qui dépassait même le prix de quelques châteaux de l'époque. L'œuvre était sans aucun doute unique, ne serait-ce que par l'énorme quantité de travail qu'elle a réclamé, mais en dépit des évidentes lectures faites par Dinglinger, des récits de voyage de la fin du XVIIe siècle, et je reviendrai sur un certain nombre de ses ouvrages, et malgré son effort pour identifier les personnages moghols, nous sommes frappés par son incapacité, au mieux dire, son non-désir à différencier la cour moghole de celle du roi de Chine, de l'Empire ottoman ou même de l'ancienne Égypte. On trouve donc des éléments qui sont repris d'un peu partout et il fait une espèce de mélange de ces éléments pour faire ce qui est censé être la cour moghole mais qui est en réalité une espèce de version composée de plusieurs cours exotiques, des cours à la fois asiatiques, mais aussi, dans le cas de l'Égypte, bien sûr, non asiatiques. On peut reconnaître, par exemple, des idéogrammes chinois ou leurs pastiches sur des mèmes du trône, et bon nombre de notables moghols sont représentés en mandarin chinois dans leurs chaises à porteurs ou en pacha ottoman en turbané. Seul l'empereur barbu et quelques autres personnages font vaguement référence aux Moghols eux-mêmes. Dinglinger a donc condensé une énorme variété de rituels de cour pour réaliser un tableau riche et singulier, mais pas du tout réaliste. Alors, où est-ce qu'il est allé chercher ces références? On sait qu'une grande partie de ces références vient donc de ce texte en particulier, le texte donc de Dr. Olfert Dapper, où il y a donc justement question de l'Asie en général, mais surtout, comme on dit, Herreich des Großen Moguls, le royaume du Grand Mogol. Dapper était lui-même quelqu'un qui n'avait jamais voyagé, ou en tout cas pas beaucoup voyagé. Il n'a jamais été en Asie, mais c'était un imprimeur, c'était un collectionneur, et donc c'était quelqu'un qui travaillait de seconde main en utilisant des récits de voyage de certains, par exemple, néerlandais ou français ou autres qui ont été en Inde moghole. Mais il était aussi, lui, capable de faire des travaux donc, où il mélangeait un peu tout. Donc on a si vous voulez, couche sur couche de mélange, des mélanges faits par Dapper lui-même, par la suite des mélanges faits soit par Dinglinger, soit par des gens qui entouraient donc, Dinglinger. Mais en tout cas, on arrive à cet objet qui est un objet qui est censé être la représentation d'une cour chez une autre, mais en réalité, comme j'ai dit, c'est plutôt une espèce de projection ou une fantaisie qui répond, on dirait, presque aux pires, pires accusations d'Edward Said dans Orientalisme sur la façon dont les Occidentaux parfois ont perçu l'Orient. Alors, si je commence avec cet objet, c'est pour vous dire qu'il y avait donc plusieurs façons d'aborder les cours ailleurs. Et on peut donc prendre aussi bien un objet comme ça ou des illustrations venant plus ou moins de la fin du XVIIe siècle qui sont censées montrer la cour moghole, mais là, encore une fois, sont plus ou moins des fantaisies exotisantes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les descriptions même faites par des gens comme François Bernier ou Jean-Baptiste Tavernier, des descriptions qui étaient assez connues à l'époque car il s'agit de textes imprimés et très, très bien répandus, soit dans l'original, soit dans des traductions. Alors, j'ai l'intention, en fait, d'utiliser ça comme point de départ pour vous démontrer qu'en effet, cet objet-là est une exception. C'est une exception à plusieurs égards. C'est une exception, bien sûr, parce que c'est une exception au niveau de son prix, c'est une exception au niveau du luxe qu'il représente, même si ça vient finalement d'une cour qui ne représente pas énormément de choses par rapport, par exemple, à la cour de Vienne ou de Versailles. Mais en tout cas, c'est aussi pour vous démontrer que c'est une exception, disons, étymologiquement. Si on prend un autre cas sur lequel j'avais parlé brièvement l'année dernière, ça, c'est un tableau peint par un peintre néerlandais, de la deuxième moitié du XVIIe siècle, Willem Schellings. Schellings a consacré au moins 4 peintures à la cour moghole. Là, vous voyez donc la cour moghole à l'époque de l'empereur Shah Jahan, que vous voyez ici. Mais bien sûr, l'essentiel du travail de Schellings, on sait que ça se base sur les miniatures moghole. Schellings avait lui-même jamais voyagé, en tout cas pas en Asie, il a été en Italie et en Angleterre, mais Schellings a quand même puisé et il a utilisé des sources moghole et des peintures moghole, comme on voit par exemple de cette représentation d'une femme musicienne qui est extrêmement bien calquée sur une version qui vient justement de la cour moghole. Donc j'ai envie de placer, si vous voulez, Dinglinger un extrême du spectre de l'éventail des possibilités. Et j'ai envie de vous montrer en fait comment, en général, on arrivait à faire passer du savoir dans les représentations, comment on arrivait donc à faire des liens entre des mondes de représentation assez, au départ, assez distincts, mais finalement pour faire justement une histoire connectée. Alors, c'est vrai qu'à l'époque de Dinglinger, on disposait d'un certain nombre de peintures sur la cour moghole en Europe parce qu'il y avait des collectionneurs qui avaient déjà commencé à monter leur collection, soit aux Pays-Bas où il en avait un certain nombre. On connaît l'histoire de Rembrandt qui avait puisé dans ses collections pour faire des représentations justement de la cour moghole. Il y avait aussi d'autres collectionneurs, quelques-uns en Angleterre et même quelques-uns en Italie, qui avaient chez eux des peintures. Malheureusement, on a souvent perdu trace de ces collections et de leurs peintures, mais là, vous voyez une version de ce qui serait une espèce de procession moghole, et là, vous voyez quelque chose qui paraît dans une gravure du début du XVIIIe siècle, gravée par quelqu'un qui était assez connu, assez célèbre, qui est le graveur Bernard Picard. Picard qui avait des liens donc avec des grands collectionneurs en Italie, dans les Pays-Bas et aussi en France. Alors, ce n'est pas pour vous dire que ça, c'est exactement ça, mais vous voyez qu'il y a une espèce de ressemblance de famille. Malheureusement, dans ce cas précis, l'original que Picard avait utilisé venait d'une collection appartenant à un aristocrate italien, le comte Giovanni Antonio Baldini, a été perdu entre-temps parce que la collection de Baldini a été dispersée au début du XVIIIe siècle. Mais de toute façon, on sait qu'il y avait des peintures, peut-être pas de cette qualité, mais plus ou moins de ce genre, disponibles en Europe au XVIIe siècle, si on voulait donc représenter ce qu'était la cour ailleurs, la cour donc, qui ne serait pas selon les conventions européennes, mais une cour où il y avait peut-être un despotisme ou en tout cas une version de quelque chose qui était une espèce de jeu de miroir avec les cours dans l'Europe de l'époque. Là, vous voyez encore une fois une peinture de grande qualité et pour avoir ce genre de choses en Europe, il fallait la conquête britannique de l'Inde. C'est-à-dire qu'il fallait faire passer des choses pas seulement par le marché, mais par la force. Alors là, on est donc en train de voir que déjà, on n'est pas du tout dans un cadre qui serait incompréhensible pour quelqu'un qui regarde cette peinture en Europe pour le 17e siècle. Ce n'est pas incompréhensible pour plusieurs raisons. Pour une raison très simple, c'est-à-dire parce qu'on sait que les Moghols ou les peintres moghols de l'époque avaient été eux-mêmes influencés par les Européens. Donc, il y a déjà des conventions européennes qui sont rentrées dans la peinture moghole. Donc, c'est pour cela aussi qu'on se reconnaissait assez facilement. Mais même pour ceux qui n'étaient pas d'origine européenne, ceux qui venaient, par exemple, de l'Iran ou de l'Asie centrale, ce n'était pas comme si les représentations et les conventions étaient tellement différentes ou tellement éloignées que c'était hors de question de reconnaître un peu les conventions, même s'il y a des différences assez nettes pour un certain nombre de choses, à la fois techniques et des références un peu codées qu'on peut trouver dans ces peintures. Alors, pour aborder cette question des sociétés de cour, bien sûr, il faut mentionner quelques références obligatoires. Et parmi ces références, donc, il faut forcément passer par Norbert Elias, qui a donc écrit un certain nombre de livres qui traitent de cette question d'une façon ou d'une autre, mais certainement ce livre-là, La société de cour, qui est la version où il y a aussi une préface et discussion justement de notre collègue Roger Chartier. Alors, donc dans l'avant-propos de cet ouvrage, Elias commence avec quelques passages qu'il vaut la peine peut-être de citer. Donc, il commence en nous disant, et je cite, « La cour princière de l'Ancien Régime et la formation sociale particulière que va de pair avec toute cour princière, la société de cour, offre un champ des plus fertiles à la recherche sociologique et, il faut ajouter, historique. Comme aux étapes précédentes au développement de l'État, où la centralisation n'avait pas encore atteint le même degré, la cour princière de l'Ancien Régime alliait toujours dans des pays où un prince régnait en faisant pratiquement abstraction des assemblées d'État, autrement dit, dans les pays de régime absolutiste, la fonction d'administration suprême de la maison des plus grandes familles princières à celle d'organe central de l'ensemble de l'administration étatique, autrement dit, à celle du gouvernement. » Donc, il commence plus ou moins avec l'Europe occidentale en nous disant qu'il allait justement traiter ça. D'ailleurs, une grande partie de ce livre s'est basée sur le cas français, comme on le sait. Mais par la suite, il y a aussi un passage assez intéressant où il dit, et je cite encore, « Toutefois, les sociétés européennes ne sont pas les seules où la cour et la société de cour ont représenté des formations centrales dans le cours de l'évolution de la société étatique. Les sociétés étatiques conquérantes ou menacées de conquête de l'ère pré-industrielle, dans lesquelles une population déjà relativement différenciée pour ce qui est de la répartition des fonctions et occupant un territoire relativement étendu était gouvernée à partir d'une seule et même position centrale, ont montré dans l'ensemble une forte tendance à réunir au sein d'une même position sociale, celle du monarque, des possibilités de pouvoir que dépassaient de loin dans leur ampleur celles de toute les autres positions. Et partout où c'était le cas, dans les grands empires de l'Antiquité, où le pouvoir centralisé en Chine, en Inde, comme dans la France d'avant la Révolution, à une époque plus proche de nous, la cour de monarque et la société des gens de cour constituaient une formation d'élite puissante et prestigieuse. Alors, mais comme je viens de vous annoncer, finalement, Elias n'avait pas trop investigué lui-même la situation dans ses cours ailleurs qu'en Europe. Il cite d'ailleurs, comme il fallait pour quelqu'un comme une formation comme lui, comme point de départ, bien sûr, Leopold von Ranke. Et on sait que von Ranke, parmi les ouvrages, cette espèce d'énorme masse d'ouvrages qu'il a publié de son vivant, et a aussi publié un texte qui est assez intéressant, qui s'appelle « Die Osmanen und die spanische Monarchie », dans lequel il traitait justement du rapport entre les Habsbourg espagnols et les Ottomans, basé, il faut dire, d'ailleurs, pour ce qui est des Ottomans, sur les travaux d'un savant en particulier, qui est Josef von Hammer-Purgstall, qui avait donc fait des traductions, justement, des chroniques ottomanes au début du XIXe siècle. Et ça, c'est le point de départ, donc, pour von Ranke dans ce texte. Mais il faut dire que, malgré ça, Elias et les gens qui ont suivi Elias de près ne sont pas tellement intéressés dans la situation donc extra-européenne. Et quand ils ont abordé ces questions-là, c'était plutôt par le biais justement d'une histoire comparée. C'est-à-dire, on compare les structures, on compare les morphologies de cours, etc. Exercice tout à fait respectable, je ne dis pas le contraire, mais il faut quand même avouer qu'il y a peut-être autre chose à faire en laissant, au moins pour l'instant, cette question de l'histoire comparée des cours pour aller vers une autre situation, c'est-à-dire justement le problème de l'histoire connectée des sociétés de cours. Parmi ces exercices de comparaison, je cite un seul exemple récent. À droite, vous aviez ici le travail d'un historien néerlandais, Jeroen Dandam, qui fait justement la comparaison entre Vienne et Versailles à la fin du XVIIe, début XVIIIe. Il y a aussi, bien sûr, un certain nombre de travaux, même des travaux qui ont été menés dans cette maison, comme ce livre assez intéressant d'Emmanuel de Leroy Ladurie sur Saint-Simon ou le système de la cour, où justement il a essayé, entre autres, de faire la comparaison entre ce qui serait la société de cour dans une cour comme Versailles et le système des castes en Inde, en puisant, par exemple, justement, dans les travaux de l'anthropologue Louis Dumont, il a essayé de faire une comparaison entre deux structures. Une structure qui était beaucoup plus large qu'une société de cours et une autre qui était justement une société de cours en puisant dans les écrits de Saint-Simon. Donc, dans le sillage de Elias, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de travaux plus ou moins conçus dans ce cadre comparatiste. Mais pour ce qui est le cadre donc connecté, on reste encore sur sa fin, si j'ose dire. Et les travaux qui ont été menés, par exemple, parfois par des spécialistes de l'Asie, et en particulier l'Asie du Sud-Est, qui est un de mes points de départ pour aujourd'hui, ont souvent cité, un peu de loin, Elias, et ont fait référence à la possibilité de dialoguer avec le modèle d'Elias, mais sans pour autant aller beaucoup plus loin que ça. Je cite ici deux ouvrages, un qui est extrêmement connu, l'autre un peu moins. L'ouvrage donc de l'anthropologue américain Clifford Geertz, Negara, dans lequel il traite justement de Bali au XIXe siècle, et il utilise donc ce mot ou cette phrase devenue célèbre d'état théâtre. Et il faut dire que cette idée de Geertz qu'il a lancée en utilisant des exemples venant de l'Asie du Sud-Est, par la suite a été parfois réimportée dans l'historiographie européenne. Mais surtout dans l'historiographie asiatique, il nous parle donc justement de comment on peut concevoir l'État balinais au 19e, c'est-à-dire à l'époque du début du colonialisme néerlandais dans la région, comment en fait on peut traiter cette question par le biais justement d'une conception théâtrale. Il y a eu quelques critiques de ce livre, mais parmi les critiques les plus intéressantes, il y a donc, par exemple, une critique de la part de Benedict Anderson, dans laquelle, par exemple, il a reproché Goetz de ne pas avoir fait le rapport entre le théâtre au Bali même et l'état théâtral. C'est-à-dire, en disant que Goetz avait traité cette question de théâtre d'une façon un peu trop générique, sans penser au fait que le théâtre même était une construction donc, culturelle et le théâtre au Bali n'était pas forcément ce qu'était le théâtre, par exemple, en Inde ou en Chine. Donc, il y avait les spécificités et donc on aurait pu faire une espèce de réflexion relisant un peu les traditions théâtrales et la politique en tant que théâtre. Alors, l'autre livre, beaucoup moins connu, mais qui reste assez important pour nous, c'est l'ouvrage d'Anthony Milner, qui s'appelle donc Karajan, dans lequel Milner a essayé de faire, de présenter une espèce de réflexion générale sur ce qu'il appelle la culture politique des Malais à la veille du colonialisme, et dans lequel il traite à la fois Malaisie, c'est-à-dire la partie de l'Asie du Sud-Est qui est tombée sous les Britanniques, sous le contrôle des Britanniques, et aussi cette partie qui est restée avec les Néerlandais, en s'appuyant essentiellement sur des textes et la théorie politique telle qu'on peut l'apercevoir à partir des textes, pas seulement de théorie politique, mais aussi des textes qui parlent incidemment de la politique, comme par exemple dans les chroniques et ailleurs. Alors, donc, pour venir à mon point de départ géographique, je vous ai annoncé comme titre pour aujourd'hui « De Kota Raja à Jamestown ». Donc, voici Kota Raja. On est donc dans l'Asie du Sud-Est. On est, comme vous voyez, dans le pays des éléphants. Et ça, c'est effectivement le nord et surtout le nord-ouest de Sumatra, où il y avait, au XVIIe siècle, on le sait, un grand sultanat, un sultanat assez important, surtout d'un point de vue commercial, qui est le sultanat de Aceh, appelé donc par les Portugais Achem, A-C-H-E-M, mais Aceh, qui a été, comme il s'avère, l'objet d'études d'un grand savant français, qui était donc Denis Lombard, qui avait, à la fin des années 60, publié ce livre. Je présente mes excuses pour la qualité de l'image, mais ça, c'est le sultanat d'Aceh au temps d'Iskandar Muda, qui était le sultan donc, au début du XVIIe siècle. Et aujourd'hui, dans la discussion, je vais aussi utiliser un autre ouvrage paru sous la plume justement de Denis Lombard, qui est l'édition qu'il a faite d'un récit de voyage, un récit de voyage donc, d'un voyageur normand, qui était Augustin de Beaulieu, qui s'est rendu dans ces pays-là, à Aceh, justement à l'époque d'Iskandar Muda, au début du XVIIe siècle, et Denis Lombard l'avait publié sous le titre « Mémoire d'un voyage aux Indes orientales ». Le texte avait été publié au XVIIe siècle, mais c'était très difficilement disponible, et cette version de texte a aussi l'avantage d'avoir beaucoup de notes et une introduction assez consistante, etc. Alors, il s'agit de quelle partie du monde ? Donc, vous voyez un peu là où on est. On est dans l'Asie du Sud-Est et surtout, vous voyez, dans le nord de Sumatra. C'est plus ou moins, pour ceux parmi vous qui se rappellent de tsunami d'il y a quelques années, c'était une des régions les plus affectées par le tsunami. Alors, donc, on est à Aceh, et là, c'est Kota Raja, c'est la ville capitale où il y avait donc la cour des sultans d'Aceh, même si le royaume, en fait, s'étendait sur une grande partie de côte ouest, où il y avait une production assez considérable au XVIIe siècle de poivre, ce qui faisait en grande partie la richesse du royaume, mais il y avait aussi autre chose qui n'était pas totalement négligeable non plus, c'est-à-dire à l'intérieur, il y avait des mines et notamment des mines d'or dans le Minangkabau. Et c'est aussi parce que les régions productrices d'or étaient tributaires au roi qu'il avait donc un autre atout à part le poivre. Mais le sultanat d'Aceh avait aussi une influence qui allait beaucoup au-delà de Sumatra. Ils avaient des liens, parfois de mariage et de parenté, avec d'autres princes sur la péninsule malaise. Par exemple, sur des régions comme Kedah, Malacca était au XVIIe siècle sous le contrôle des Portugais, mais à Kedah ou à Johor, et etc., à Pahang, aussi un autre sultanat important. Et en fait, l'influence d'Aceh allait beaucoup au-delà de ça, parce qu'il y avait des rapports aussi avec les royaumes au nord de Java, et même dans les Moluques, jusque dans le Sulawesi, où il y avait donc parfois une influence achéenne qui était assez considérable. Alors, les Achéens étaient considérés par les Portugais comme leurs pires ennemis, mais en fait, ils étaient aussi en réseau avec toute une série d'autres royaumes musulmans. Et déjà au XIXe siècle, des savants néerlandais avaient remarqué qu'il y avait donc des rapports culturels qu'on pouvait très facilement discerner parce que, par exemple, en regardant le sceau des sultans d'Aceh, il y avait des rapports qu'on pouvait faire. Par exemple, ça, c'est la version du début du XVIIe siècle et ça a été démontré, par exemple, que ce sceau a un rapport très proche avec ce qu'on voit à la cour ottomane. Donc, manifestement, il y avait des rapports suffisamment proches pour que les sultans d'Aceh puissent puiser dans cette façon de auto-représentation des Ottomans. Mais alors là, en allant vers la fin du XVIIe siècle et en allant jusqu'à la fin du XIXe, ça devient la version classique du sceau des sultans d'Aceh, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sceau. Donc il y a le cercle central entouré par 8 autres noms de sultans, et ceux parmi vous qui sont connaisseurs de l'histoire de l'Empire moghol, vous voyez tout de suite qu'en fait ça c'est très fortement influencé par le sceau chez les Moghols à partir du début du XVIIe siècle. Donc ça c'est juste un petit exemple pour vous démontrer que on ne peut pas parler d'Aceh comme si c'était un royaume tout simplement en réseau en Asie du Sud-Est, c'était aussi bien un royaume qui était en rapport avec le monde musulman vu large, l'Inde, l'Empire ottoman, et dans une moindre mesure le golfe Persique, parce qu'il y avait certainement des marchands qui venaient du golfe Persique, mais pas peut-être en nombre comme de la mer Rouge ou comme du Bengale ou de Gujarat en Inde. Alors, on sait également qu'il y avait une production à Aceh de documents assez luxueux, qui eux aussi étaient manifestement marqués par une influence venant de loin. Ça, c'est un des premiers documents de la chancellerie achéenne qu'on connaît, qui ont survécu. Et c'est un document donc, qui vient de 1615. Et aujourd'hui, on le trouve dans la bibliothèque bodléenne en Angleterre, car c'est une lettre dirigée par le sultan d'Aceh au roi Jacques Ier d'Angleterre. Pourquoi ? Parce que les Anglais vont arriver à Aceh au début du XVIIe siècle. Ils ont tout de suite compris que, comme les Acheyens n'étaient pas en bon terme avec les Portugais, si on voulait faire le commerce du poivre, c'était dans un port et dans un royaume comme ça qu'il fallait se diriger. Et c'est un texte d'ailleurs assez intéressant dans lequel le sultan il utilise déjà des titres qui sont assez intéressants, assez parlants. Il s'appelle Shri. Shri, c'est donc le mot sanskrit, le Shri Sultan Perkasha Alam. Donc Perkasha Alam, ça veut dire la lumière du monde. Mais Alam étant donc le mot arabe et Prakasha étant le mot sanskrit. Donc on aurait pu dire, par exemple, si on était en Inde moghol, Nur al-Alam. Mais lui, il préfère utiliser cette espèce de mélange qui est déjà assez intéressant pour vous montrer qu'il y a aussi des couches qui viennent d'une autre culture là, qui n'est pas forcément la culture islamique. Alors, un objet de luxe, un objet qui démontre aussi une certaine capacité pour fabriquer des documents, et qu'il y a une chancellerie donc qui est tout à fait sophistiquée. Je vous donne assez rapidement un aperçu, pas de la première partie du document, parce que en fait, le document, ça consiste en les premières trois quarts du document sont que des titres du sultan. Et finalement, arrivé vers la fin, il y a juste quelques phrases où on parle de business. Et alors là, j'utilise la traduction faite par le savant orientaliste anglais Shalabert. Là, vous voyez le texte en malais et par la suite la traduction en anglais par Shalabert. C'est donc adressé au roi de l'Angleterre, le roi Jacques, qui a sous son autorité la Bretagne, la France et l'Irlande. Et alors, donc, vous voyez, en malais, c'est assez intéressant comme c'est présenté, parce qu'il est présenté comme Raja Yang de Negeri Ingeris, Yang Bernama Raja Yakub. Donc, on a déjà fait la traduction de James en Yakub, et où on dit donc par la suite Yang Mengampukan Negeri Britanni, dan Negeri Fransi, dan Negeri Irlandia. Donc, voilà des informations, manifestement, qui sont venues, pas forcément par le biais des Néerlandais, qui n'auraient pas présenté Jacques Ier sous cette lumière un peu trop glorieuse, mais qui sont venues, par exemple, probablement, de quelques malentendus entre les commerçants anglais eux-mêmes et les rois. Alors, dans ce petit texte qui vient à la fin du document, il dit, donc, en effet, que... Le sultan d'Aceh a reçu une lettre venant de l'Angleterre, et dans cette lettre, il y avait une requête. On voulait faire le commerce dans deux ports de la partie occidentale de Sumatra, c'est-à-dire Tikku et Priaman. Mais en réalité, c'est impossible de faire ça parce que ces ports-là ne sont pas suffisamment sous le contrôle du sultan d'Aceh, et donc il dit qu'il serait mieux qu'ils évitent ça et qu'ils préfèrent plutôt rester à Aceh même, et parce que là, la justice du roi est plus forte et il est plus capable de contrôler la situation. Et donc, on termine donc avec ces souhaits pour la santé de Raja Yakub, toujours présent ici. Alors, ce texte nous est utile pour revenir à Beaulieu, parce que, en fait, les documents échangés entre Beaulieu et le sultan d'Aceh, nous ne sommes pas vraiment parvenus. Parce que Beaulieu, donc, a passé du temps, été présenté maintes fois à la cour d'Aceh. Il nous donne une belle description de la cour. Je vais revenir sur cette description. Mais malheureusement, il ne nous donne pas beaucoup de détails sur le contenu des documents échangés entre les deux, ni sur leur forme. Alors, donc, je viens maintenant sur le texte de Beaulieu et la description. Ah. Pas malin. Oui. Et sur leur version de rencontre entre un Normand, donc venu du royaume d'Henri IV, ou de Louis XIII, jusqu'en Asie du Sud-Est à l'époque. Alors, donc, description de ce qu'il appelle le château royal à Aceh. Pour le fait de château, passez la grande cour où tiennent les logements du roi, hommes n'y passent et se servent de femmes, tant pour la garde intérieure du château que pour son service, que l'on dit être en nombre de 3 000, lesquels rarement sortent du château. Donc déjà, on est dans un paysage un peu exotique où il n'y a que des femmes à l'intérieur du château. C'est quelque chose sur lequel on a aussi fait des remarques dans d'autres contextes islamiques et aussi de l'Asie du Sud-Est. Mais en fait, par la suite, il passe à une description où c'est semé avec des mots venant du malais, donc des mots exotiques, parfois expliqués, parfois non. Donc, je vous donne un autre passage. Donc, ces femmes-là, elles ont leur bazar ou marché parmi elles, comme ont les hommes dans la ville. Ils trafiquent les unes avec les autres des ouvrages qu'elles font, que leurs amis ou parents leur vendent ou échangent contre ce qu'elles ont de besoin. Elles ont aussi leur justice et sont réparties sur divers capitaines. Même, elles ont des, et là encore un mot, pangulu cavallo. Elles ont des pangulu cavallo, ou office de chef du guet parmi elles, comme dans la ville. Elles n'entrent nul homme là-dedans que les eunuques qu'on dit être au nombre de 500. Donc, là encore, il y a cette espèce de référence sur une culture qui serait plus ou moins une culture commune chez pas mal de cours musulmans. Outre cela, le roi a ses femmes et concubines qui sont en bon nombre, et parmi elles, il y a 20 femmes qui sont filles légitimes du roi qu'il a saccagées, et la dernière qu'il a conquise a été la reine de Perak, donc dans la péninsule malaise, que l'on dit être très belle et avec laquelle il a gagné une maladie qui est capable de l'emporter. Si la vigueur de son âge, qui est encore en sa fleur, ne l'en garantit. Donc, il y a une espèce de description assez longue par la suite de ces femmes sur leur société, sur les différents statuts. Par exemple, il parle souvent d'un mot, c'est-à-dire, en français, il écrit « orankai », c'est donc « orankaya », ce sont les hommes d'importance, les hommes considérables, c'est-à-dire une espèce de couche sociale qui correspond en quelque sorte à une espèce de noblesse. Il dit que, par exemple, tous ces orankai sont répartis en trois bandes et qu'ils alternativement comparaissent les uns après les autres. Et c'est à peine de la vie, confiscation de leurs biens, femmes, enfants et esclaves. Davantage, les orankai ne s'osent communiquer ni fréquenter tant en leur maison qu'ailleurs. Donc là, il a aussi cette idée que la noblesse est totalement terrorisée et sous le contrôle du roi. Il nous raconte une histoire selon laquelle, autrefois, au XVIe siècle, ces nobles détenaient effectivement le pouvoir, mais les rois ont fait un espèce de coup centralisateur, justement, à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Ils ont pris le pouvoir entre leurs mains et là, donc, on se retrouve dans cette situation actuelle. Une situation, donc, dans laquelle il nous décrit une cour donc centralisée, une cour où il faut passer par le roi pour tout avoir. C'est donc pour cela qu'il va passer plusieurs audiences avec le roi, audiences dans lesquelles il présente ses propres lettres, mais ces lettres sont assez curieuses parce que il s'avère en fait que Beaulieu, comme il le dit lui-même, il a des lettres de cachet du roi en blanc. Et c'est lui-même qui va les remplir. Il met, par exemple, dans la première lettre qu'il donne, à notre très cher frère, le roi d'Aché, et il dit, puis il a fermé avec le sceau où étaient les armes de France avec de la cire rouge. Donc, vous voyez qu'il a aussi ses propres lettres, mais il les fabrique à moitié lui-même sur son bateau avant de se mettre sur le chemin de la cour, mais toujours en faisant comme si ces lettres venaient de la France et pas par son intermédiaire à lui. Donc, chez Beaulieu, on retrouve tous ces éléments-là. On se retrouve donc en quelque sorte dans une cour qui est assez familière. Il y a ces mots exotiques, mais il est aussi capable, et il le dit nettement, de comparer le roi d'Aché ou le sultan d'Aché avec d'autres rois. Par exemple, il y a un moment donné quand il y a une considération sur les cadeaux qu'il faut amener. Et il dit qu'il a parlé dans le port avec le capitaine d'un navire de Surat, c'est-à-dire le grand port de Gujarat. Et il a montré le cadeau, le présent, et l'autre a dit qu'un tel présent était plus approprié pour donner à son prince, le grand moghol, et que là, il serait mieux employé qu'au roi d'Aché. Donc, il a aussi cette idée, manifestement, qu'il y a d'autres grands sultans, de grands rois dans le monde musulman, et par rapport à eux, le roi d'Aceh est de, manifestement de seconde classe, même s'il a aussi cette espèce de conscience qu'ils appartiennent tous à un même monde culturel et donc avec ces façons de se présenter qui ont quelque chose à voir avec ce qu'on pouvait trouver, parce que Beaulieu, à l'époque, n'avait jamais été en Inde ou dans l'Empire ottoman. D'ailleurs, il faut aussi dire que dans la terminologie qu'il utilise, ces mots exotiques, il y a trois sortes de mots. Il y a des mots donc malais, il y a des mots portugais qu'il trouve comme aussi faisant référence à une réalité locale. Par exemple, il parle toujours d'alfandegue pour parler des douanes. Alfandega. Et il parle, par exemple, toujours aussi des saguates pour parler de cadeaux. Ça, c'est une histoire un peu compliquée parce que saguate, c'est un mot portugais, mais emprunté du persan, saugat. Il utilise, bien sûr, beaucoup de mots venant de l'Inde, comme charbander, par exemple, pour parler des notables dans le peuple. Alors, donc, déjà, dans ce premier cadre, on est dans une situation où notre Normand, arrivé en Asie du Sud-Est, n'est pas totalement, il n'est pas du tout dépaysé, en quelque sorte. Il peut se retrouver en utilisant plusieurs points de repère. Il peut se retrouver en faisant des comparaisons entre ce qu'il aurait trouvé en France et ce qu'il, ou dans une autre cour européenne et ce qu'il trouve en Asie du Sud-Est, mais aussi il a cette possibilité de passer par une espèce de niveau intermédiaire que sont ce qu'il sait comme des espèces de lieux communs sur les cours musulmanes et surtout à partir des connaissances que tout le monde manifestement de ce niveau d'éducation a sur, par exemple, le grand seigneur, c'est-à-dire sur Istanbul et sur la cour ottomane. Donc, il y a une espèce de possibilité de traduction directe. Le rapport entre la réalité qui est en face de lui et ce qu'il connaît à partir de l'Europe, mais il y a aussi une espèce de traduction possible en passant par un tierce, c'est-à-dire ces autres cours qu'il considère comme plus importantes, plus considérables, plus sophistiquées en quelque sorte, et il trouve que Aceh est une espèce de reflet un peu pâle de ces autres réalités. Alors, il s'avère aussi, comme je vous ai dit, que la langue véhiculaire qui est utilisée par Beaulieu, c'est souvent le portugais. Donc, ça, c'est aussi une façon de passer. C'est-à-dire, par exemple, on sait que les Portugais avaient une certaine connaissance assez intime avec d'Aceh. Il y avait même un certain nombre de Portugais qui étaient à la cour. Il y a, par exemple, un cas au moins où l'histoire se finit un peu mal. Et avec un Portugais qui termine martyrisé, soi-disant, par les Acehiers. Là, vous voyez la représentation du roi d'Aceh dans ce texte. Alors, maintenant, je passe à l'autre volet. C'est-à-dire, on a parlé de l'Asie du Sud-Est, et je vais passer maintenant à vous dire un certain nombre de choses sur un autre personnage, et parce que souvent, pour moi, c'est utile de passer par ces personnages qui font en quelque sorte, qui sont les passeurs, les ponts, les points de passage obligatoires, que font les traductions, qui vont, comme je vais expliquer peut-être dans le cours de la semaine prochaine, aussi jouer le rôle de production de commensurabilité entre ces cultures de cours. Parce que plutôt que penser qu'il y en a des cultures de cours qui sont en principe soit commensurables, soit incommensurables, il faut plutôt penser à la commensurabilité comme quelque chose qui est produite par l'action des hommes. Et là, je passe donc à quelqu'un qui est un contemporain presque exact de Beaulieu, qui est le capitaine John Smith, personnage assez connu pour ceux parmi vous qui aiment bien les films de Walt Disney, mais on reviendra à cette question brièvement. Alors, John Smith, que vous voyez ici, personnage assez différent par rapport à Beaulieu, parce qu'il ne vient pas d'un milieu marchand, c'est en fait un paysan. Un paysan anglais que, selon lui, avait grandi à la fin, donc à l'époque d'Elizabeth, dans les alentours de, à l'entour d'une grande maison noble. Et il nous dit, mais c'est comme c'est toujours ses propres récits à lui, il faut se méfier un peu de sa façon de raconter les choses. Mais en tout cas, il nous dit que tout en étant paysan, il avait donc été en rapport avec quelqu'un, un noble italien, mais pas seulement un noble italien qui avait des liens de parenté avec les paléologues, avec les Byzantins, et qui a été en Angleterre pour enseigner les fils de cette maison noble toutes sortes de choses. Et alors, donc, Ceylon Smith, il a été lui-même formé dans une série de choses, dans ses rapports avec ce monsieur paléologue, qui lui avait donc appris à monter le cheval, des courtoisies, de la culture de cour, mais aussi un certain nombre de textes. Il nous cite des textes classiques qu'il a donc lus, parce que c'est un autodidacte, mais il a aussi lu les modernes. Donc, bien sûr, il a lu Tacite et Jules César, mais il a aussi lu Machiavel, selon ses propres dits, en tout cas. Et alors, arrivé à un certain âge, à la fin des années, à la fin du XVIe siècle, comme un certain nombre de personnes, dont Anthony Shirley, sur lequel j'avais écrit par le passé, il va donc décider de devenir mercenaire. Et il part donc tout d'abord en France pour lutter dans les armées d'Henri IV. Mais par la suite, il décide que ce n'est pas là qu'il va faire fortune. Et il va donc décider d'aller lutter dans cette longue guerre, cette fameuse longue guerre de la fin du XVIe siècle entre Ottomans et Habsbourg. Donc, voici John Smith dans cette région-là. Il est justement donc en Transylvanie et il a aussi des activités plus ou moins dans cette région. Finalement, il s'avère qu'il y a deux volets pour ce qui est son activité. Tout d'abord, il va lutter dans les armées contre les Habsbourg. Mais très vite, il change de côté et il va devenir, donc, selon lui, et il faut toujours, comme je dis, se méfier un peu de ce récit parce que ça vient exclusivement de lui. Mais en tout cas, il nous raconte qu'il est devenu un des hommes liège du prince de Transylvanie, Báthory Zsigmond. Et il va donc lutter cette fois-ci pour Zsigmond contre les Ottomans et ce qu'il appelle génériquement les Tartares. Donc, au départ, ça se passe plutôt bien. Même s'il y a toujours une espèce de subodore, toujours le roman chevaleresque. C'est-à-dire, il a, par exemple, ses récits sur comment il a lutté, mais vraiment comme ça, hein, comme si c'était une espèce de chevalier à l'époque médiévale, contre des Turcs. Hein, et il nous dit qu'effectivement, il avait tué trois de ces Turcs, il leur a coupé la tête, et donc, par conséquent, il a reçu comme écu et ça, avec les trois têtes de Turc, aussi ce texte venant de Báthory Zsigmond en latin, où il était donc, il a reçu des titres de noblesse. Mais malheureusement, son histoire dans cette région ne termine pas avec ça. Il va perdre dans une bataille et il va donc être pris et vendu sur le marché d'esclaves et il va terminer plutôt là. Donc, c'est-à-dire sur le bord est de la mer d'Azov, avec les Tartares. Et là, il nous raconte une histoire extrêmement curieuse, assez rocambolesque. Je vous donne juste une petite partie de cette histoire, où il nous dit qu'il avait été pris en main par une femme noble qui s'appelait Charatsa Tragabigzanda. Et cette dame, qui était la femme d'un de ses maîtres, qu'il avait acheté en esclave, était devenue, on soupçonne, plus ou moins amoureuse de lui. Et finalement, donc, au départ, elle n'a pas compris qui il était. Elle voulait parler avec lui en italien. Par la suite, il a envoyé des gens pour parler avec lui en d'autres langues. Et finalement, elle a compris qu'il était en réalité anglais. Et elle l'a envoyé chez son frère, un certain Temur Bacha de Nalbritz, que je n'arrive pas à identifier, et les éditeurs de son ouvrage non plus. Il se peut que ça serait un endroit qui s'appelle Nalchik, dans la même région. Mais en tout cas, arrivé là, en tant qu'esclave, là vous voyez M. Smith, et il va finalement se soulever contre son maître, il va le tuer et prendre la fuite, passer encore une fois par la Transylvanie pour récupérer ses lettres de Bathory Sigmund, et donc revenir en Angleterre, où aussitôt il va donc partir en 1607 en Virginie. Okay. Et c'est là où se passent en fait les aventures de John Smith telles qu'on les connaît, entre autres par Hollywood. C'est parce qu'il arrive au moment même quand les Anglais sont en train d'essayer de fonder leur deuxième tentative de colonie dans cette région. Vous vous rappelez qu'à la fin du XVIe siècle, il y a eu la tentative de Walter Raleigh et d'autres, de Roanoke, qui a échoué. Mais alors là, on est à Jamestown, et il va arriver donc justement dans le sud de la Virginie, où il va donc commencer à semer des troupes, parce qu'il semble que John Smith a des difficultés avec presque tout le monde. C'est-à-dire qu'il est déconsidéré par les Anglais parce que même avec ses lettres de noblesse venant de Transylvanie, il n'est pas pris au sérieux comme un vrai noble. Il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a la hauteur qu'il faut. Donc il est déconsidéré parmi ses propres compatriotes. Il a aussi des problèmes avec les Néerlandais, il a des problèmes avec les Espagnols qui sont toujours intéressés par cette région. Mais surtout, il a des problèmes avec les Indiens, entre guillemets, c'est-à-dire les Powhatan, hein, les gens qui sont dans la région, petits royaumes. Et voilà la description qu'il a, John Smith, de gouvernement de ces gens. Et ce que j'ai envie de vous démontrer assez vite, c'est que John Smith est le premier et presque le dernier qui pense qu'en Amérique, dans cette région, il est face à un empire. Donc, ce n'est pas un usage qui est retenu au XVIIe siècle. Et il faut attendre le XXIe siècle pour avoir un historien finlandais qui nous a raconté que les Comanches avaient un empire. Mais en fait, si on regarde la deuxième moitié du XVIIe siècle, le mot empire n'est jamais utilisé pour parler de ces systèmes politiques. Tandis que Smith est assez clair dans sa tête qu'il s'agit d'un empire. Donc il dit, although the country people be very barbarous, yet have they amongst them such government as that their magistrates for good commanding and the people for due subjection and obeying excel many places that would be counted very civil. The form of their commonwealth is a monarchical government, one as the emperor ruleth over many kings or governors. The chief ruler is called Powhatan and taketh his name of his principal place of dwelling called Powhatan. But his proper name is Vahuns Sonacoc. Some countries he hath which have been his ancestors and came unto him by inheritance, etc., etc. Donc, en fait, il nous décrit ce système articulé qui pour lui correspond à un empire. Et il va donc nous raconter comment il a lutté contre un certain nombre de ses grands chefs. D'ailleurs, cette illustration, on le sait, a été totalement fabriquée sur une autre illustration faite par John White à Roanoke dans les années 1580, donc rien d'original là, c'est du coupé-collé. Mais là où j'ai envie de revenir, c'est sur l'histoire qu'il va raconter, l'histoire très connue, qui est l'histoire donc de cette dame qui s'appelle Rebecca Rolfe, mais qui est plus connue sous le nom de Pocahontas. Alors, regardons le texte de Smith, il nous raconte en gros qu'il a été amené, été fait prisonnier. Il a été amené chez Powhatan, the emperor. Il nous raconte qu'il y avait... donc, le langage est toujours un langage de cour. Here more than 200 of those grim courtiers stood wondering at him. Si on fait la comparaison, par exemple, avec un texte comme le texte de Jean de Léry pour le Brésil, on voit que le langage utilisé pour décrire le système de l'autre est totalement autre. Tandis que pour John Smith, c'est assez clair qu'il est face à une société de cour. Il y a un empire, il y a un cour. Et alors, pour aller plus loin, en fait, on a décidé qu'on voulait le tuer. Et à un moment donné, donc, il y a cette question de sacrifice de John Smith et ce texte très connu, ce passage où on dit « Then as many as could laid hands on him, dragged him to them, and thereon laid his head, and being ready with their clubs to beat out his brains, Pocahontas, the king's dearest daughter, when no entreaty could prevail, got his head in her arms and laid her own upon his to save him from death. Whereat the emperor was contented he should live to make him hatchets and her bells, beads and copper. » Donc, il est sauvé par Pocahontas qui intervient. Mais là, malheureusement, c'est le même topos qu'on a déjà vu quand il était en Europe de l'Est, parce que là aussi, apparemment, partout où il va, les dames trouvent que le capitaine John Smith est irrésistible. Donc, c'est plus ou moins la même séquence qu'on voit partout. C'est pour cela, d'ailleurs, que... On prenait ce texte au 17e, 18e et même pendant une grande partie du 19e siècle comme argent comptant, comme si ça racontait plus ou moins les choses comme elles se sont passées. Et d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, c'est un des grands mythes fondateurs de la colonie américaine et même des États-Unis, parce que là, vous voyez que ce n'est pas du tout le rapport de violence et d'hostilité, c'est aussi l'amour entre celui qui va devenir le colonisé et le colonisateur. Hein. Donc, il y a une espèce de compact entre les deux. On voit que politiquement, ça peut être extrêmement utile. Mais il faut dire qu'au XXe siècle, et surtout à la deuxième moitié du XXe siècle, on est arrivé à dire même que le texte de Smith était le premier roman américain. Et qu'en fait, en réalité, il utilise beaucoup de ces éléments qui viennent de la fiction, qui viennent des textes chevaleresques. Mais pour nous, plus que d'aller dans ce sens-là, ce que je trouve intéressant, c'est comment, en fait, il va penser l'Amérique et penser l'Amérique de Virginie en fonction de l'Empire ottoman. Et surtout en fonction de ce qu'il connaît, qui n'est pas Istanbul, mais surtout ces petites villes de cour en Transylvanie et ailleurs, et même autour de la mer d'Azov. Et alors, donc, pour lui, il n'y a pas question de poser cette société autrement qu'une société de cour. Et du coup, donc, là où on arrive avec lui, c'est une situation où l'Amérique n'est rien d'autre qu'une espèce de version un peu revue et corrigée du monde islamique. C'est une question qui a été posée maintes fois par rapport à d'autres personnages de l'époque. Et je vais terminer sur juste ce cas assez précis. Thomas Rowe, qui est un contemporain plus ou moins exact de Beaulieu et de John Smith, avait fait office d'ambassadeur à plusieurs endroits. Il a été en Inde moghole, il a été à Istanbul. Mais au tout début de la guerre de 30 ans, il a été l'ambassadeur anglais en Scandinavie et aussi chez un certain nombre de princes allemands. Et en regardant tous ces textes qu'il écrit d'un peu partout, on peut justement arriver à voir comment il fait à la fois la connexion et la différence entre ces expériences qu'il a eues dans des pays assez variés. Mais ce qu'on trouve finalement, c'est qu'il a aussi, derrière tout cela, une espèce de vision d'ensemble qui fait qu'il se présente à la fin de sa vie surtout, mais déjà dans les années 1630, comme grand connaisseur, pas d'un pays ou d'un autre, mais comme grand connaisseur des cultures de cour. Donc là, il arrive vraiment à construire un objet qui n'est pas le pays en tant que tel, mais en fait les cours comme objets séparés, et séparés donc de leur propre pays, mais connectés entre eux. Et donc, c'est plus ou moins cet objet-là, conçu par ces gens de l'époque, donc par forcément nos visions imposées sur, sur une réalité fuyante, mais nos visions en dialogue avec leur vision, qui est plus ou moins le chemin que je vais tâcher de poursuivre dans les cours qui nous restent pour cette année. Merci.